Je vous propose de prendre la parole et de faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 8 et verset 9. Hébreux, chapitre 8, verset 9, je lis « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » C'est un texte qui paraît sévère, mais le Seigneur nous invite, comme nous venons de le faire, à persévérer dans une alliance. Vous savez, la cède, c'est l'alliance. C'est le sang de l'alliance qui a été versé pour nous. Et le Seigneur a fait alliance avec son peuple. Et lui a accompli sa part en allant sur la croix et en mourant pour nous. Il a fait toute sa part. Et maintenant, c'est aussi cette alliance est le sujet, justement, de quelque chose qui nous montre que Dieu est avec nous. Et il nous faut nous appuyer sur le fait que Dieu ait fait alliance avec nous. Et à chaque fois que nous prenons la scène, il nous faut nous rappeler que si nous prenons la scène, c'est aussi le renouvellement d'une alliance que nous faisons. C'est à nouveau un engagement, comme si on reprenait notre baptême quelque part et on dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, je m'engage à nouveau cette semaine. Je m'engage devant toi à tout faire pour te plaire, à t'être agréable. Quelles que soient les périodes que je peux passer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Seigneur, je veux te faire confiance. » J'aimerais qu'on lise maintenant un autre texte dans l'Épître de Jacques. On tourne quelques pages. Chapitre 1er. Ça illustre ce que je suis en train de dire. C'est des versets qui sont pas faciles à lire et pourtant, quand on prend du recul sur ce que Dieu nous fait traverser, on réalise ces paroles vraiment. Jacques chapitre 1er verset 2 « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Alors est-ce qu'il s'agit d'être dans la joie parce que nous traversons l'épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve elle-même qui doit nous réjouir? Non. C'est ce qu'il va y avoir après. C'est ce à quoi l'épreuve va servir. C'est un regard de foi, c'est une projection de foi sur ce que Dieu nous permet de passer. Et c'est surtout ce qu'il veut nous enseigner. On continue, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Donc Dieu travaille à ce que lui, de son côté, travaille à ce que nous soyons parfaits et accomplis sans manquer de rien. Et pour cela, il arrive qu'il permette effectivement des épreuves. Mais ça fait partie aussi de l'alliance que Dieu fait avec nous. Un troisième texte, on revient dans l'Épître aux Hébreux et là on va au chapitre 13. L'alliance de Dieu nous permet de participer à son œuvre. Et ça, c'est quelque chose de très important, on le réalise pas toujours. Dieu fait alliance avec nous et nous rend participants de son œuvre. L'apôtre Pierre dit aussi que quand nous sommes enfants de Dieu, par sa divine puissance, nous sommes participants de la nature divine. C'est quelque chose qui nous dépasse. On ne réalise pas l'œuvre de Dieu, on ne réalise pas ce qu'il fait, et il nous rend participants de ça. Hébreux, chapitre 13, verset 20, il est écrit « Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Qu'il vous rende capable. Et le Seigneur a un plan. Le Seigneur veut agir parmi nous et dans sa grâce, il veut nous faire participer à son travail. Moi, quand je réalise ça, je me dis quand même que c'est, il pourrait faire les choses tout seul. Il est Dieu. Il n'est pas obligé de compter sur nous. Et pourtant, dans son amour, il nous inclut dans ses projets. Il nous inclut dans son œuvre. Il fait alliance avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et ça, c'est la première chose. C'est ce que nous voyons dans ce que Jésus a fait à la croix. Ensuite, il veut travailler à notre perfectionnement. C'est une condition de l'alliance. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir des épreuves. Et troisièmement, c'est la troisième lecture, il veut travailler avec nous en nous rendant participants de son œuvre. Pour ça, j'ai pensé à un exemple. On va prendre l'exemple de Joseph. Avant d'aller vraiment dans l'exemple, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose au sujet de l'Alliance. Et je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au verset 45, au chapitre 45. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. Jacob, dans le livre de la Genèse, est des fois appelé Jacob, et des fois il est appelé Israël. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Est-ce que vous croyez que celui qui a écrit la Genèse l'a fait par hasard? Non, il l'a pas fait par hasard. Et on va voir l'exemple. Genèse 45, verset 25. Nous sommes là dans un contexte où Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Et il aimerait que son père revienne. Et on voit la réaction de Jacob qui est surprenante, qui est certainement logique aussi. Jacob, il a eu ce nom que Dieu lui a donné, ce nom qui reflète l'homme spirituel. Regardez, le choix du nom. 45, verset 25. Ils remontèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, donc c'est les enfants de Jacob, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob reste à froid, parce qu'il ne les croyait pas. C'est l'homme charnel, c'est celui qui n'a pas la foi, c'est celui qui ne croit pas. On continue. « Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. » Et là, qu'est-ce qu'on a, verset 28? Israël dit, aïe, il est de retour, comme on dit. Israël dit, c'est assez, mon fils Joseph vit encore, j'irai le voir avant de mourir. Je vous dis cela pour que vous puissiez faire la différence entre ce que la Bible dit quand elle dit Israël et ce que la Bible dit quand elle dit Jacob. Et je vous invite à regarder toute son histoire avec cet angle. Parce que Israël nous parle de l'homme spirituel, de celui qui a la foi. Alors que celui qui est nommé Jacob, il est plutôt question de l'homme en tant que tel, de la personne de Jacob. Et qui est ce qui est différent. Parce qu'à chaque fois qu'on voit Israël, il y a quelque chose à regarder. Alors maintenant, on va les regarder dans le chapitre 37 de la Genèse. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose au sujet de Joseph que vous n'aviez peut-être pas réalisé jusqu'alors. Genèse chapitre 37 verset 3. Un texte surprenant où on entend dire beaucoup de choses. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. J'ai entendu des tas de choses à ce sujet. Jacob faisait des préférences. Vous avez lu comme moi, c'est écrit Jacob ou c'est écrit Israël? C'est écrit Israël. Moi, ça me fait penser à cet autre texte qu'on trouve dans Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que Dieu fait des préférences? Non, il fait pas de préférences. Il nous aime tous. Jésus est mort à la croix pour nous tous. Il a fait alliance avec nous tous. Il nous aime tous. Mais qu'est-ce qui fait que dans le cœur de Dieu, il aime Jacob et il a haï Ésaü? C'est parce que Dieu sait toute chose et à l'avance, il savait que Ésaü allait mépriser le droit d'aînesse, que Ésaü allait mépriser Dieu, tout simplement. La promesse que Dieu avait faite à son père, Ésaü n'en voulait pas. Il l'a méprisé, il l'a foulé aux pieds. Est-ce que n'est-ce pas naturel que Dieu dise « J'ai haï Ésaü » ? Jacob, lui, était attiré par la bénédiction. Il voulait la bénédiction de Dieu. Si on réfléchit à cette histoire, c'est Israël qui aimait Joseph plus que tous les autres. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a là quelque chose que Jacob va devoir vivre. On va voir un prophète, un homme de Dieu, qui va se mettre à la couture. Ça fait sourire. Une tunique de plusieurs couleurs. Est-ce que la notion de plusieurs couleurs vous fait penser à quelque chose? Un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a eu lieu quand? Quand est-ce que la Bible nous parle d'un arc-en-ciel? Après le Noé. Et de quoi il s'agit? D'une alliance. Il s'agit d'une alliance. Il s'agit de quelque chose que Dieu fait avec les hommes et il promet de ne plus jamais faire pleuvoir. Donc Jacob, c'est pas Jacob là du coup qui fait cette tunique, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, fais une tunique. Alors on imagine Jacob, oh, mais si je fais ça, ça va mal se passer avec les frères. Fais la tunique. Parce que j'ai fait alliance avec Joseph. Obéis. Et Jacob, quand il fait cette tunique, il le fait pas parce qu'il préfère les uns aux autres. Et souvent, on entend justement ce message qui dit, voilà, faites attention en tant que parents, ne pas faire de préférence, en se basant sur ce texte. Et c'est une erreur, parce que ce que Jacob fait ici, c'est une obéissance à Dieu. C'est quelque chose de spirituel qui reflète une alliance que Dieu fait avec Joseph. Et Dieu fait alliance avec Joseph parce que Dieu a vu dans le cœur de Joseph un cœur qui était entier pour Dieu, un cœur qui aimait Dieu, un cœur qui voulait lui plaire. Alors Dieu fait alliance avec Joseph et elle est représentée par cette tunique. Et Jacob ne fait rien d'autre qu'obéir. Est-ce que cette tunique vous rappelle pas autre chose? Moi, cette tunique, elle me rappelle le manteau d'Élie aussi. Quand Élisée succède à Élie, il récupère le manteau. Cette tunique, elle me rappelle aussi la robe qui est donnée au fils prodigue. Mettez-lui la plus belle robe et mettez-lui un anneau au doigt. La tunique qui fait alliance, qui est le signe de l'alliance de Dieu. Ce passage du fils prodigue est d'ailleurs encourageant parce qu'on s'aperçoit que on peut être tombé bas et on peut toujours revenir à Dieu. Et il sera toujours prêt, lui de son côté, à renouveler cette alliance avec nous. Quand nous prenons la scène, c'est ça. Quand nous prenons la scène, c'est Dieu qui nous rappelle. Parce qu'on annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, on se rappelle que lui, il a fait alliance. Et par la foi, je participe à ce repas parce que je crois de tout mon cœur qu'il a fait alliance avec moi. Et moi, de mon tour, je fais aussi alliance avec lui. Je veux lui être agréable, je veux lui plaire. Et on voit que cette alliance que Dieu fait avec Joseph va être un point de départ de quelque chose de grand. Quand Dieu fait alliance avec nous, il se peut que parfois autour de nous ça se passe pas bien. On va voir l'histoire de Joseph, je parlais du fils prodigue, vous avez remarqué l'attitude du fils aîné. L'attitude du fils aîné n'est pas bonne. Il est jaloux, il se met en colère. Il ne supporte pas. Mais le fils aîné, c'est pareil, il a un cœur. Certes, il n'a jamais quitté la maison, mais il est religieux. Parce qu'il n'est pas converti, ce frère aîné. On peut être là dans l'église, être assis sur la chaise, et pour autant écouter le message dimanche après dimanche, réunion après réunion, et ne pas être converti. Et avoir une mauvaise réaction. Il faut aller plus loin que ça, qu'assister aux réunions, écouter des messages pour que Dieu fasse, pour qu'on puisse rentrer dans l'alliance de Dieu. Joseph, on va voir, vous avez remarqué que Joseph, quand il a des songes, c'est pas avant d'avoir la tunique, c'est après. Et là aussi, ça nous parle. Ça veut dire qu'une fois qu'il a eu l'alliance de Dieu, Dieu commence à travailler avec Joseph. Et Dieu commence à lui dévoiler ses plans. Quand Dieu fait alliance avec nous, que nous sommes là, le Seigneur veut nous dévoiler son œuvre. Il veut nous montrer, il veut nous faire partager. Mais si on veut le recevoir, il faut passer du temps avec lui. Il faut nous retrouver seul à seul avec lui. Et dans ces moments-là, Dieu nous révèle des choses, Dieu nous montre des choses. Et comme Joseph, Dieu veut, par amour, Dieu, est-ce qu'il aurait pu se passer de lui donner des songes à Joseph? Il aurait pu ne pas lui en donner. Seulement, Dieu lui donne ses songes. Pourquoi il donne ses songes? Parce que Joseph avait besoin d'être équipé pour quelque chose de difficile. Il avait besoin d'un point d'appui. Il y avait cette tunique, mais en plus, Dieu lui donne ses songes parce que il fallait que Joseph puisse s'accrocher à quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Joseph comme moi? Et pourtant, on réalise pas ce que Joseph a vécu. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 13 ans, son épreuve. C'est pas rien, 13 ans. C'est long. Et pourtant, Joseph a tenu bon. Dans le verset, chapitre 41, Genèse chapitre 41, verset 38. Regardez même ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent dire d'une personne qui a vraiment fait alliance avec Dieu. C'est le Pharaon qui parle. Genèse 41, 38. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est un inconverti qui parle. Quand on demeure dans l'alliance que Dieu fait avec nous, même ceux qui ne connaissent pas Dieu le voient. Est-ce que dans ma famille, ça se voit? Est-ce que l'image que je renvoie, elle parle à ceux qui m'entourent? Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Quand Dieu fait alliance avec nous, surtout s'il voit que nous sommes enseignables, vaut mieux être enseignable. Mais quand on est enseignable, on le voit quand on va à l'école, on apprend des choses, et à un moment donné, on a un test pour savoir si, oui, on a bien retenu, si on a bien appris. Et il y a des tests. Et Dieu va travailler à plusieurs choses avec Joseph. Il va travailler à son perfectionnement, dans un premier temps. Il va travailler pour perfectionner. L'épreuve que Joseph va vivre va lui être très utile par la suite. Et ensuite, sans même qu'il puisse s'en rendre compte, Joseph va participer à quelque chose de grand. Alors regardez avec moi. On a le perfectionnement de Joseph. La première chose, il va connaître la trahison de ses frères. Et il va être dépouillé de sa tunique. Justement, celle qui rappelle l'alliance que Dieu fait avec nous. Et par moment, alors qu'on a reçu des choses de Dieu, le diable est là comme un voleur en voulant nous enlever ce que Dieu nous a donné, en voulant nous rendre, nous séparer de ce que Dieu nous a donné. Pourtant, on l'a reçu, mais le diable cherche à nous séparer de ces choses. Et Joseph a connu cette trahison. Il a eu cette tunique qui lui a été volée. Le diable, il veut nous voler notre identité. Non, non, tu n'es pas un enfant de Dieu avec la vie que tu mènes, c'est pas possible. Mais non, ça c'est faux. Ne pas écouter ces voix-là. Celui qui s'approche tout à nouveau devant Dieu, qui demande pardon, il a accès au pardon de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous dit pardonner autant de fois que nécessaire, pourquoi il nous demande ça? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à agir comme lui. Donc ça nous rassure quelque part de savoir que Dieu est prêt à nous pardonner. Mais il nous faut nous approcher de lui avec un cœur droit, sincère. Celui qui est prêt à aller devant lui et reconnaître sa faute. Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Celui qui est en Christ, celui qui s'appuie sur ce qu'il a reçu de Dieu, rien ne peut le séparer. Que ce soit les épreuves, quoi que le diable essaye de nous voler, de nous enlever, ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. On voit quoi? On voit que Joseph ne va jamais douter de l'amour de Dieu à son égard. Et il va devoir apprendre à pardonner. Joseph a été trahi par ses frères. Et quand ses frères reviennent beaucoup plus tard, est-ce que vous croyez que Joseph en avait encore contre eux? Non. Joseph avait ce cœur qui était prêt à pardonner. Joseph avait ce cœur qui était prêt. Il ne s'agit pas de passer l'éponge. Vous savez, c'est comme quand on se blesse. Quand on pardonne, on n'oublie pas. On ne peut pas oublier ce qu'on a souffert. Mais on a une cicatrice. Et une cicatrice, on la voit, mais elle ne fait plus mal. Et le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est celui qui va être prêt à dire « oui, je te pardonne ». Et de prier, de souhaiter du bien pour la personne, de prier le Seigneur pour en sa faveur. Et là, le Seigneur nous guérit. On voit qu'ensuite, Joseph, il va perdre sa liberté. Alors qu'il avait cette marque d'honneur, vous savez, la tunique multicolore, l'alliance, elle parle aussi de quelque chose. Vous savez que Dieu, le droit d'aînesse, il l'accomplissait plus ou moins, parce que on voit bien qu'ensuite, Jacob va donner le droit d'aînesse aux plus âgés. Non, il va donner aux fils de Joseph, qui sont pas les plus âgés. Donc le droit d'aînesse, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une bénédiction que Dieu veut nous donner en particulier. Et cette tunique-là, eh bien, elle reflétait la bénédiction qui était sur Joseph, que du fait de l'alliance qui était là entre Dieu et Joseph. Et Joseph avait le droit d'aînesse. Et on voit que, de toute manière, l'histoire nous le confirme. Après, c'est bien Joseph qui a le droit d'aînesse. Et alors que c'est une marque d'honneur, c'est la marque qui... Il s'agit, le droit d'aînesse parle de porter le nom de son père. Joseph est censé poursuivre la lignée. Et nous, c'est pareil. Et pourtant, il va perdre cette liberté. Il va perdre cette tunique. Il va perdre tout ce qui faisait l'honneur qu'il pouvait avoir. Il avait un vêtement qui marquait qu'il avait un honneur plus haut que les autres, effectivement. Mais Joseph va se retrouver esclave. Cette tunique lui est enlevée, il se retrouve esclave et il va perdre toute sa liberté. Alors qu'il était un homme libre, même reconnu, il va devenir esclave. Et il va devoir apprendre, justement, alors qu'il a été honoré, alors que Dieu lui a donné des songes, il va devoir apprendre à être humble. Il va devoir apprendre l'humilité. Là où il pouvait peut-être s'enorgueillir de sa tunique, il pouvait s'enorgueillir peut-être de ses songes, que fait Dieu? Il va faire en sorte qu'il apprenne l'humilité. Et que si ça lui est arrivé, si il est dans cette étape-là où il va devoir être esclave, c'est Dieu qui le permet. Il en aura besoin de cette humilité, parce que le jour où il sera élevé au plus haut niveau dans l'Égypte, il la gardera, cette humilité, parce qu'il a connu. Il est passé par une étape difficile où il s'est retrouvé au plus bas de l'échelle sociale. Et pourtant, on voit quand même que Dieu est toujours là. Genèse 39, verset 9. On voit que Dieu est toujours avec lui. Et sa fidélité va être mise aussi à l'épreuve. On voit que Joseph, alors qu'il était esclave, se retrouve à la tête de la maison de Potiphar. Dieu est toujours là. Dieu ne lui a pas parlé pendant ses 13 ans, mais on voit quand même que Dieu l'accompagne. Genèse 39:9, que dit Joseph face à Madame Potiphar? Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Malgré tout ce qu'il a vécu, la trahison de ses frères, le fait d'être esclave, vendu, le fait d'être déporté, il n'était plus en Israël, il se retrouve en Égypte, il était devenu du coup étranger, les étrangers étaient moins regardés que les gens du pays, il était au plus bas. Et pourtant, il a toujours ce souci de ne pas attrister Dieu. Il a toujours ce souci de vouloir être agréable à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'aimait. Il avait fait alliance avec Joseph parce qu'il avait vu dans son cœur quelque chose. Et où est-ce que ça l'amène, cet état d'esprit? En prison. Des fois, on peut se poser des questions, on se dit, mais je comprends pas. Seigneur, je fais tout mon possible pour te plaire et toi tu me fais ça et ça va de mal en pire. Qu'est-ce qui se passe? Joseph n'a pas perdu confiance, même en prison. Et il y a quelque chose de très très important que nous allons voir. C'est là où on va voir toute la grandeur de Joseph. Joseph, alors qu'il est en prison, on va le lire. On va le lire. Alors, on tourne quelques pages. On est à chapitre 39, verset 40. Chapitre 40. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 6. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Voyez-vous là tout le cœur de Joseph? Il est en prison. Est-ce que c'est justice qu'il soit en prison? Non, c'est injuste. Est-ce que Joseph aurait pu se dire, bah moi aussi je suis en prison après tout, moi j'ai souffert aussi, beaucoup plus qu'eux, qui se débrouillent, c'est leur problème. Est-ce que Joseph a réagi comme ça? Non. Joseph était soucieux du bien-être même des prisonniers qui étaient avec lui, alors que lui, il y était pour une raison qui était totalement injustifiée. Il a vécu cette descente aux enfers, si on peut dire. Et pourtant, il n'a jamais perdu. Il a toujours fixé Dieu. Il a toujours eu ce cœur en voulant être agréable à Dieu. Et il était tellement sensible qu'il a été capable de discerner que parmi tous les prisonniers, il y en avait deux qui étaient tout tristes. Joseph nous montre là toute la compassion qu'il avait. Et c'est ce qui va débloquer la situation de Joseph. C'est le début d'une remontée. C'est la compassion qu'il avait. Oui, peut-être que parfois dans nos vies, on peut vivre des choses qui sont difficiles. On peut vivre aussi peut-être parfois des injustices. On peut peut-être vivre des fois des situations vraiment injustes, où on se sent touché même dans notre orgueil personnel. On se sent pas bien et on se dit « Seigneur, c'est pas juste ce qui m'arrive ». Et pourtant, on a un exemple ici où alors que on peut traverser ce genre de situation, on peut rester malgré tout avec un bon état d'esprit, avec un cœur en bon état, un cœur qui regarde quand même à Dieu et qui malgré tout regarde plus loin que le moment présent. Oui, je suis en prison. Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu as fait alliance avec moi. Les songes que tu m'as donnés, je les ai pas oubliés. Et même si en ce moment je comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur, je veux pas perdre confiance. Je veux toujours avoir à l'esprit que tu es au-dessus. Et c'est ça qu'avait Joseph. Il avait toujours cette confiance en Dieu. Et grâce à cela, ça l'a tenu parce que à chaque fois qu'il descendait plus bas, il le vivait quand même bien. Et il a été capable d'avoir de la compassion pour ses co-détenus. Il n'est pas resté dans l'individualisme. On voit que Joseph, il portait du fruit. L'apôtre Paul écrit aux Galates, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Oui, Seigneur Jésus, cette épreuve peut-être que je traverse et je trouve que c'est injuste. Seigneur, tu connais toutes choses et garde-moi d'être fidèle. Garde-moi d'avoir ce regard d'amour autour de ceux qui m'entourent, même si eux, ils le vivent moins bien que moi. Donne-moi, Seigneur, d'aimer mes ennemis, entre guillemets, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont mal parlé, ceux qui ont été désagréables avec moi. Donne-moi d'être cet homme, cette femme de paix autour de moi. Donne-moi d'être patient, de supporter. Joseph, est-ce qu'il a été patient? Oui, il a été patient. Il n'a pas bronché pendant ses 13 ans. Il est passé étape après étape en subissant le traitement divin. Mais il l'a pas mal vécu. Il regardait au-delà de ça. Il s'appuyait sur l'alliance que Dieu avait fait avec lui. Il s'appuyait sur le fait qu'il savait que Dieu était avec lui. Et pourtant, pendant 13 ans, il n'a pas entendu sa voix. Il savait. Et Joseph, malgré lui, devient alors participant d'un sauvetage divin. C'est là qu'on voit comment Dieu peut travailler avec quelqu'un qui a un cœur pour lui. Pourquoi je dis malgré lui ? Est-ce que tout ce qui est arrivé à Joseph, il l'a cherché ? Il n'a rien cherché. À partir du moment où on lui a offert cette tunique, tout est parti. Et Joseph, il a demandé cette tunique ? Non. Jacob, est-ce qu'il voulait faire cette tunique ? Non. Il n'a fait qu'obéir à Dieu et il l'a confectionnée parce que Dieu lui avait demandé. Parce que Dieu avait établi que là se situait le point de démarrage d'un plan de sauvetage dont personne n'avait l'idée. Quelque chose qui dépassait tout le monde. Joseph était beau. C'est pour ça qu'il a été choisi par Potiphar. Est-ce que c'est de sa faute s'il était beau ? Non. Joseph était consciencieux, il était bon gestionnaire. Donc dans la maison de Potiphar, il a pu monter parce qu'il était capable. Et il a commencé à apprendre à gérer des biens, il a commencé à apprendre à administrer des biens. Et alors qu'il a été très très bon là-dedans, on voit que plus tard, là c'est une image, c'est une ombre de ce qui allait l'attendre plus tard. Il allait devoir administrer pas les biens d'un homme, mais il allait devoir administrer les biens de tout un pays. Ce que Dieu voit est bien supérieur à sa situation là. Et alors qu'il était toujours beau, il a attiré le regard de Madame Potiphar. Joseph était juste, il était droit, il s'est retrouvé en prison. Sa pureté l'a amené en prison. Est-ce que c'est de sa faute ? Non, c'est pas de sa faute. Joseph était soucieux des autres, il a pu ainsi rentrer en relation avec le panetier et les chansons. C'était chose toute simple. Regardez, parmi nous, peut-être, quelqu'un qui peut avoir une tristesse sur son visage et dire, tiens, ça va pas. Est-ce que c'est quelque chose de difficile? On l'a tous fait un jour dans notre vie, ça. De remonter le moral à quelqu'un qui va pas bien. On l'a tous fait. Et Joseph, sans se rendre compte, il faisait quelque chose de tout simple. Il faisait quelque chose de... Chez Potiphar, il faisait ce qu'on lui demandait. Ni plus ni moins. Une fois qu'il était en prison, il faisait son travail, toujours pareil, mais en plus, il avait des attentions toutes simples vis-à-vis des codétenus. Et avec ces petites choses toutes simples qu'il a fait, sans s'en rendre compte, il participait à quelque chose de tellement grand. Joseph connaissait la voix de Dieu et il a pu interpréter les songes. On voit là toute la formation que Dieu donnait à Joseph. Et Joseph ne l'a pas mal vécu. Et au contraire, on se rend compte à quel point toute cette formation que Dieu lui a donnée lui a été utile après qu'il ait été élevé par le Pharaon. Il a été participant à un plan divin. Et là, je vais terminer, parce qu'on voit que toutes les épreuves qu'il a vécues, toutes, lui ont été utiles. Que nous puissions peut-être nous réfléchir et s'inspirer de cet exemple pour que nous puissions regarder ce qui nous arrive, les moments difficiles, que nous puissions avoir peut-être ce cœur en se rappelant, oui Seigneur, tu as fait alliance avec moi, tu es mort pour moi à la croix, tu me montres par là tout ton amour Seigneur, et je veux croire que ce que je traverse en ce moment, eh bien tu as une bonne raison. Aide-moi à regarder au-delà de ce qui me dérange du moment. Aide-moi à regarder peut-être ce que tu veux faire avec moi. Aide-moi à comprendre ce que tu voudrais m'apprendre à travers ce moment-là. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, qui est prêt à dire à Dieu qu'il est prêt à renouveler cette alliance ? Qui est prêt ce matin encore à dire à Dieu, oui Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai pas fait confiance, pardonne-moi parce que j'ai été médisant, parce que je me suis plaint. Seigneur, aide-moi dorénavant à te faire confiance, quoi qu'il arrive. Qui veut? Qui veut être prêt à se laisser façonner par Dieu? Parce que c'est ce qu'il a fait avec Joseph, mais on ne façonne pas un vase sans mettre les doigts et lui donner la forme. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille avec nous. Qui est prêt à dire « Oui, Seigneur, façonne-moi comme tu le désires, même si ça peut me faire mal par moment. Seigneur, je veux être ce beau vase. » Qui veut rentrer dans ce plan divin, dans l'œuvre de Dieu? Nous sommes tous appelés à être participants d'une œuvre divine. Et même si nous ne nous rendons pas compte de tout ce que nous faisons, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui aime Dieu de tout son cœur, il s'en rendra compte peut-être une fois là-haut. Sur terre, on ne verra rien, peut-être. Peut-être par la grâce de Dieu, nous le verrons. C'est Dieu qui décide. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est un état de cœur. C'est quelque chose que Dieu regarde et par lequel nous pouvons rentrer, oui ou non, dans son plan. J'aimerais citer juste pour terminer ce passage dans Michée, chapitre 6, verset 8. Le plan de Dieu pour nous, il est tout simple. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, c'est important, c'est ne pas redonner à quelqu'un quelque chose de mauvais. C'est pardonner quelque chose d'injuste. Et il nous faut pardonner. La miséricorde, elle est liée au pardon. Et il faut que tu marches humblement avec ton Dieu. Si on pouvait résumer la vie de Joseph, c'est ce verset. Il n'a fait que ça. Il est resté simple. Il a gardé son cœur tourné vers Dieu. Et Dieu a fait de Joseph ce grand homme de la Bible, ce type de Christ. Joseph est l'image de Jésus lui-même à travers cette histoire. Est-ce que nous voulons participer? Est-ce que nous voulons ce matin nous placer devant Dieu? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants et je vais prier. Dieu ne nous demande pas des choses insurmontables. Vous savez, Pierre, il a été capable de marcher sur l'eau, mais il n'a pas été capable de résister à la voix d'une femme qui lui disait « Mais toi aussi, tu es de cela ». C'est pas Samson, il a été capable de déchirer la gueule du lion, mais lui non plus n'a pas résisté à quelque chose de bien plus simple. Et ce que Dieu nous appelle, c'est justement ça. Seigneur, je veux pas à faire de grandes et belles expériences. Oui, on aspire à faire de grandes expériences. Seigneur, ce matin, alors que je réalise ça, je veux simplement marcher simplement devant toi. Je veux marcher devant ta face. Je veux marcher devant toi. Je veux pratiquer la justice. Je veux aimer la miséricorde. Je veux simplement marcher devant toi, humblement. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous montre que tu fais cette alliance avec nous. Merci pour ta parole qui nous montre que tu veux nous donner, Seigneur Jésus, de participer à ton œuvre, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous permets ces épreuves. Aide-nous à les regarder avec joie. Pas d'aimer être dans la tristesse, mais avoir ce regard qui va plus loin. Aide-nous à regarder le fait que toi, tu vois bien au-delà. Toi, tu es souverain et tu nous fais participer à ton œuvre, même si nous nous en rendons pas compte. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que nous tous qui sommes là ce matin, tu puisses permettre, peut-être pour certains, des changements de direction. Je te prie, Seigneur, pour celui, pour celle qui est révoltée contre toi, pour celui ou celle qui ne comprend pas ce qui lui arrive, celui ou celle qui est dans la colère, qui est dans la tristesse, celui ou celle qui est dans l'irritation, celui ou celle qui a besoin de pardonner et qui ne le fait pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que, à la lumière de ce message, il y ait des décisions. Je te prie, Seigneur, pour que celui qui a besoin de pardonner, pardonne. Je te prie, Seigneur, pour que celui qui a besoin de te faire confiance, te fasse confiance. Que celui qui est tout le temps dans les inquiétudes, arrête de s'inquiéter et te fasse confiance. Et crois que tu es au-dessus de toute chose. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous enseigne, qui est ce baume qui fait du bien à notre cœur. Merci pour ces rappels. Seigneur, nous voulons marcher humblement devant toi et nous te disons merci pour ta grâce. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.